Une des choses que j'apprécie dans la nouvelle, c'est la possibilité de couper court. De n'être pas obligé au développement d'un roman quand peut-être il n'y a rien de plus à développer.
Bienvenue dans Couper court. Ce soir, je vous lis une nouvelle de Dino Buzzati, Général inconnu. Sur un champ de bataille, un de ceux dont personne ne se souvient, là-bas, à la page 47 de l'Atlas, où il y a une grande tache jaunâtre avec quelques noms contenant beaucoup de haches, éparpillés ça et là, on a trouvé l'autre jour, lors d'un sondage effectué en vue d'une éventuelle prospection géologique, on a trouvé donc un général. Il gisait sous une mince couche de sable, probablement apportée par le vent au cours de ces longues années, si nombreuses maintenant. Il gisait comme n'importe quel pauvre malheureux, comme le dernier des fantassins, comme un vagabond sans patrie, comme un chameau crevé de soif, comme un gueux maudit, bien qu'il eût été un général. Parce que les dissemblances n'existent que tant que nous vivons, parlons, paradons, chacun récitant son rôle, et puis c'est fini. Nous sommes tous égaux dans la position identique de la mort, si simple, si adaptée aux conditions requises par l'éternité. Description. Un squelette plutôt délabré, en mauvais état, avec cependant tous ses os, taille 1,72 m environ, aucune fracture, aucun trou, les mâchoires entr'ouvertes, comme s'il avait de la peine à respirer. À propos, une dent en or. Et puis, des lambeaux d'étain de l'uniforme de campagne, qui avait la consistance d'une toile d'araignée, des restes présumés de bottes, de ceinturons, de gants aussi, une paire de lunettes de soleil ou de myopes. Rien de particulier, en somme. Et les prospecteurs, qui étaient tous des techniciens, des hommes positifs, n'en auraient pas fait grand cas si, à l'endroit correspondant à la clavicule, il n'y avait eu deux épaulettes d'argent, avec des franges d'argent, elles aussi, à l'endroit de la tête un casque, avec une fine grecque d'or, à la hauteur de la poitrine un médaillé, avec toutes ses médailles d'argent et de bronze, retenu par des petits rubans qui conservaient encore leur belle couleur. Des médailles en or, il n'y en avait pas. Un des ouvriers jura d'étonnement, un autre dit « Oh !» Un troisième poussa des exclamations. Mais tout de suite, l'ingénieur dit « Attention les gars, surtout ne touchez à rien !» Parce qu'il avait entendu parler de certains trésors antiques enterrés et savait combien ils deviennent délicats et fragiles avec le temps. En fait, il n'y eut pas besoin de le toucher. Il faisait à cet endroit-là une chaleur terrible. Le soleil était déjà haut, 9h40. Les ouvriers qui travaillaient aux fouilles étaient en nage, et tout autour, les choses tremblotaient dans l'air brûlant. Cependant, l'air de la mer, qui n'était pas loin, soufflait, par bouffées intermittentes, avec cette odeur sincère qui fait tant de bien. Les témoins virent alors, au contact de cet air vif, authentique, fort et primordial, les épaulettes, les médailles et les petits rubans se dissoudre en microscopiques paillettes, en une impalpable poussière d'argent que le vent éparpillait. En 2 minutes, il ne subsista de tant de gloire que le casque en métal. Mais l'ingénieur était un homme capable, et il avait immédiatement pris des photos avec l'appareil qu'il portait toujours en bandoulière, de sorte que le document existe, prouvant qu'il s'agissait bien d'un général et non d'un quelconque pauvre type. Quoi qu'il en fût, l'ingénieur géologue et toute son équipe restaient plantés là comme des piquets. Ils ne savaient plus quoi dire. Ce malheureux squelette leur causait une curieuse impression. Et pourtant, ils n'étaient pas des mauviettes, ils en avaient déjà vu de toutes les couleurs. Les ouvriers ne savaient rien ou presque de la guerre qui s'était déroulée à cet endroit. C'étaient tous des gars entre 23 et 25 ans, alors vous pensez. L'ingénieur en savait un peu plus, mais guère davantage. Il était encore un petit garçon quand on s'était bagarré là-haut, et il se moquait bien de ces histoires-là. Pourtant, ils comprirent tous immédiatement que c'était un général, un homme important, en son temps. Avec les précautions qui s'imposaient, ils cherchèrent alors entre les côtes, le sternum, les vertèbres et les fémurs, s'il subsistait quelques papiers d'identité, une carte, une photo ou un laissez-passer, enfin quelque chose de palpable. Mais rien, pas le moindre nom, ni initial ni autre indice. Un général, c'est tout. Les hommes qui vivent aujourd'hui, les jeunes gars aux bras puissants comme des chaînes, les ingénieurs rompus au mystère de l'électronique et de l'automation, n'ont pas le loisir ni le désir de s'attendrir sur un mort. Ils ne bronchent pas devant le petit oiseau étranglé, devant le chat aplati comme du beurre sur la route par les pneus du camion, devant l'enfant noyé dans le ruisseau, devant le père ou la mère s'ils en font un drame. Mais ça, c'est pire que tout. Un général dont personne ne connaît le nom, dont personne ne se souvient, à qui personne ne tient compagnie, sans officier d'ordonnance, sans automobile personnel, sans sonnerie de trompette. Et voilà maintenant que le vent lui a même emporté ses médailles et l'a laissé tout nu comme un chien. À l'ampleur du ceinturon, on peut déduire qu'il était plutôt corpulent, la cinquantaine bien sonnée, sorti de l'école de guerre, auteur de monographies remarquables, spécialiste en logistique. Mariage avec une demoiselle de l'aristocratie très comme il faut, homme d'esprit, ami des arts, brillant causeur, officier de grand avenir. Et en fait, constellé de médailles, commémorant les batailles que tu as perdues, toutes. Sauf celles que tu aurais livrées demain, mais juste ce jour-là, tu es mort. Tu avais des épaulettes d'argent brillantes comme le mirage de la gloire, à droite et à gauche, sur tes épaules un peu arrondies par la graisse. Et maintenant, tu ne les as même plus. Qui te les avait offertes? Petit os en forme de flûte, tibia gracieux et compétent, tu en as éprouvé pourtant des satisfactions quand tu pesais sur l'étrier, vibrant d'un désir martial, au bruit des fanfares, rêvant de ces victoires héroïques que l'on trouve dans les livres de classe, pendant la revue nationale. Petit os en forme de sceptre, aujourd'hui fragile, que commandais-tu? Tu étais probablement affecté à l'arrière, dans le but évident de contrôler un vaste secteur. C'est un chef compétent, disait-on, et maintenant tu es ici. Est-ce qu'il n'y a pas une quelconque trompette capable de sonner le garde-à-vous pour le général X? Non, il n'y en a pas. Les généraux n'ont jamais été sympathiques aux gens, et maintenant moins que jamais. Oh, il devait avoir une belle bedaine, celui-là, observa malicieusement un ouvrier en désignant le gisant. Ils se mirent tous à rire, même le vent qui ricana en sifflant dans les arbustes alentour, tout en épines et en maigres feuilles pelucheuses. Pourquoi le pauvre petit soldat inconnu éveille-t-il encore la pitié, malgré tout ce qui est arrivé dans ces dernières années et le règlement des comptes qui a emporté les drapeaux, mais pas le général? Les généraux n'ont pas faim, parce que leur table personnelle est la préoccupation dominante de l'intendance. Les généraux n'ont pas de chaussures en cuir bouilli qui se craquellent, martyrisant les pieds. Les généraux n'ont pas une bonne amie lointaine dont le souvenir jaloux les fait pleurer de désespoir quand vient le soir. Les généraux n'ont pas de maman qui les attend, en cousant, assise au coin du feu, qui lève les yeux de temps à autre pour regarder leurs photographies, là, sur la commode. Et c'est pour cela que les gens ne les aiment pas. Ils n'ont pas pitié d'eux. Les généraux ne meurent pas à l'insu du monde, sous l'enfer de l'artillerie, des bombes et de la mitraille, sans que personne ne s'en aperçoive et qu'aucun communiqué n'en signale la perte. Celui-ci est une exception à la règle. Et c'est pourquoi les gens ne les aiment pas et n'ont pas pitié d'eux. Comme c'est difficile d'être général, surtout mort. Dans le temps, oui, on y allait d'une cérémonie et d'un monument, mais maintenant. Maintenant, au mieux des choses, on fait la moue et hop, aux ordures, oubliées. Alors un des ouvriers poussa du pied le sable pour combler l'excavation et recouvrir au moins le malheureux. Et puis, après avoir ramassé ses outils, il sauta avec les autres dans la jeep qui démarra aussitôt et il alluma une cigarette.
De bon matin me suis levé, c'était dimanche. À la carriole j'ai attelé la jument blanche pour m'en aller au marché dans le chef-lieu du comté. Paraît qu'il y avait des généraux à vendre, mais le soleil écrasait en la route blanche. La jument s'arrêtait si souvent sous les branches que lorsque je fus rendu, on n'avait pas attendu et tous les généraux étaient vendus. Pourtant là-bas, tout au bout du champ de foire, par un coup de chance, il en restait encore un. Il n'était pas couvert de gloire, mais avec un peu de ripolin, il pouvait faire encore très bien. Je l'ai changé contre un cajou de pommes pas mûres, quatre choux-fleurs et une tartine de confiture. Tout ça pour un général, c'était vraiment pas trop mal. Et puis je l'ai chargé dans la voiture. À la maison, on m'a fait des reproches amers. Encore une fois, paraît que je m'étais laissé faire. Un général dans cet état, ça valait beaucoup moins que ça. Mais puisque c'était fait, tant pis pour moi. Et puis les gosses ont eu peur de sa moustache. Elle était rousse et ça les faisait pleurer. On lui a coupé d'un côté, mais le chien s'est mis à aboyer. Alors on a laissé l'autre moitié. Il ne fichait rien pour pas salir son beau costume. De temps en temps, il épluchait quelques légumes ou réparait l'escabeau ou débouchait le lavabo. Mais il ne savait même pas jouer du piano. Certains soirs d'été, le général s'asseyait sur la paille et les yeux perdus dans l'immensité, il nous racontait ses batailles.
Il nous parlait des Dardanelles quand il n'était que colonel.
Et de la campagne d'Orient quand il n'était que commandant.
Les épopées napoléoniennes quand il n'était que capitaine.
Et puis la guerre de Cent Ans quand il n'était que lieutenant.
Les croisades Pépin le Bref quand il n'était que sergent-chef.
Et les éléphants d'Hannibal quand il n'était que caporal.
Les Thermopyles, Léonidas quand il n'était que deuxième classe.
Et Ramsès de la première guerre quand sa mère était cantinière.
Et le général, jusqu'au petit matin, déroulait le fil de son immense histoire. Puis il s'endormait sur sa botte. Et nous, sans parler, nous rêvions de gloire.
Il est resté comme ça chez nous jusqu'à l'automne, sans travailler, sans trouver la vie monotone.
Ça nous a même étonné d'apprendre par le curé qu'il avait fait deux jumeaux à la bonne.
Et puis voilà que par un beau matin de décembre, il est entré sans même me frapper dans ma chambre.
Il venait de lire dans le journal qu'on le nommait maréchal.
Alors il nous quittait, c'était fatal.
Je l'ai reconduit en carriole jusqu'à la ville.
On m'a rendu mes choux-fleurs et mes cajots.
Et sans émotion inutile, sans pleurer, sans se dire un mot, on s'est quitté en vrai héros.
À la maison, la vie a pris sans aventure.
Y'a plus personne pour nous chiper des confitures.
Le général au bistrot avait planté un drapeau.
Pour la patrie, j'ai payé la facture.
Je ne suis plus jamais retourné au marché,
mais quelquefois dans le ciel de la nuit d'été, on voit briller 5 étoiles, et ça nous fait un peu mal. On a jeté jamais.